السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, en cette journée du 12 Dhul-Qi'da 1446 de l'égir du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, correspondant au vendredi 29 mai 2025, nous poursuivons la méditation des actions du cœur qui se développent tout au long de notre pèlerinage. Il est important, comme nous l'avions déjà mentionné, de comprendre la valeur des actions du cœur pendant le pèlerinage. Le véritable pèlerinage est bel et bien celui qui est fait avec sa foi, avec le cœur, avec la sincérité, avec amour, crainte, dévotion. Non pas un pèlerinage apparent, un pèlerinage dans lequel on se serait préparé, organisé, d'un point de vue financier, physique, logistique, tout en négligeant ce qu'il y a de bien plus important que cela, la préparation du cœur. Nous allons parler aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, d'un ressenti présent dans le cœur du croyant, de la croyante, présent dans le cœur et habitant l'âme de toute personne fortement attachée à son Seigneur qu'elle connaît. Elle le connaît par ses noms, ses attributs, par lesquels il s'est lui-même présenté à elle dans son noble livre, Al-Qur'an. Le croyant a un cœur rempli d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, au point où son Seigneur, son pourvoyeur, son créateur, son protecteur, lui manque terriblement. Le croyant aimerait tellement rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que Moussa alayhi salam, s'adressant à Allah lorsqu'il a dialogué à lui, lui a demandé de pouvoir le contempler, comme Allah nous l'évoque dans le Coran. Qala Rabbi arini anzur ilayk. Il répondit: ô Seigneur, montre-toi à moi que je puisse te contempler. Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit: qala lan tarani. Tu ne me verras pas. Walakin انظر الى الجبل, mais observe cette montagne. فان استقر مكانه فسوف تراني. Si elle se maintient en place, alors tu me verras. Puis Allah subhanahu wa ta'ala s'est montré, mais lorsqu'il s'est montré, cette montagne n'a pas pu résister devant la splendeur du Seigneur, devant sa puissance. C'est alors que cette montagne s'est effondrée et Moussa lui-même est tombé effondré. Nous avons compris de là que dans la vie d'ici-bas, il n'est pas possible de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, les croyants pourront le voir dans l'au-delà et pouvoir contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, pouvoir voir son Seigneur est ce qu'il y a de plus cher dans le cœur du croyant, et c'est même le plus grand délice qui soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'a. Quiconque aime la rencontre d'Allah, Allah aimera le rencontrer, et quiconque déteste la rencontre d'Allah, Allah détestera le rencontrer. Sa noble femme Aïcha, radiyallahu anha, prise d'étonnement, lui dit: ya Rasul Allah, akarahiyatul maut, fa kulluna nakrahul maut. Ô messager d'Allah, s'agit-il de la détestation que l'on ressent pour la mort? Car nous autres détestons tous mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: il ne s'agit pas de cela, mais plutôt du fait que quand le croyant sera sur le point de quitter ce bas monde, de mourir, les anges viendront lui annoncer la bonne nouvelle c'est-à-dire la nouvelle de la rencontre d'Allah. Il se mettra alors la bonne nouvelle du paradis et de la miséricorde d'Allah. Le croyant se mettra alors à éprouver une envie ardente de rencontrer Allah, et alors Allah aimera le rencontrer. Quant au mécréant, les anges viendront lui annoncer qu'il est attendu par le châtiment, les supplices, le feu. Il se mettra alors à détester la rencontre d'Allah, et Allah le détestera et détestera le rencontrer. Ainsi, le croyant a toujours eu ce lien étroit avec son Seigneur, ce ressenti puissant, l'envie de rencontrer Allah, d'être proche de lui, l'envie de contempler son visage. Et cela fait partie des actions du cœur les plus méritoires. Car en réalité, ce n'est qu'un résultat de l'amour que le croyant éprouve pour son Seigneur. Cet amour qui, dès lors qu'il augmente envers Allah subhanahu wa ta'ala, dans le cœur du serviteur, le ressenti de vouloir être avec Allah, proche d'Allah, rencontrer Allah, voir Allah, augmente proportionnellement à cet amour d'Allah qui augmente dans le cœur du croyant. De même, chaque fois que cet amour diminue dans le cœur du croyant et régresse à cause des péchés que la personne a commis, eh bien, l'envie de rencontrer Allah, le manque vis-à-vis d'Allah diminue dans le cœur de la personne. L'amour d'Allah également. Et c'est là que la personne est sur le point de s'égarer. Mais il faut savoir quelque chose. C'est que ce ressenti de vouloir rencontrer Allah, ce ressenti qu'Allah te manque en tant que croyant, en tant que croyante, est quelque chose qu'Allah a mis dans les cœurs de tous les croyants. Peu importe leur degré de piété, peu importe leur degré de péché et leur nombre de péchés. La différence entre les croyants, c'est qu'il y a des gens qui vont ressentir ce sentiment présent dans le cœur et d'autres qui vont être aveuglés au point de ne pas le ressentir. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit: وَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَفِي قَلْبِهِ مَحَبَّةُ اللَّهِ تَعَالَى وَطُمَأْنِينَتُهُ بِذِكْرِهِ. Il n'y a pas un croyant sans que son cœur ne contienne de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, de la tranquillité dans son rappel, وَتَنَعُمٌ بِمَعْرِفَتِهِ وَلَذَّةٌ وَسُرُورٌ بِذِكْرِهِ وَشَوْقٌ إِلَى لِقَائِهِ وَأُنْسٌ بِقُرْبِهِ. De la tranquillité dans son rappel, du plaisir dans sa connaissance, une douceur et une joie dans son évocation, un désir ardent de le rencontrer et une intimité dans sa proximité. وَإِلْ لَمْ يُحِسَّ بِهِ. Quand bien même il ne ressentirait pas cette chose-là dans ce cœur. Et pourquoi est-ce qu'il est possible d'avoir ça et en même temps de ne pas le ressentir? Ibn al-Qayyim a dit: لِشْتِغَالِ قَلْبِهِ بِغَيْرِهِ وَانْسِرَافِهِ إِلَى مَا هُوَ مَشْغُولٌ بِهِ فَوُجُودُ الشَّيْءِ غَيْرُ الْإِحْسَاسِ وَالشُّعُورِ بِهِ وَقُوَّةُ ذَلِكَ وَضَعْفُهُ وَزِيَادَتُهُ وَنُقْصَانُهُ هُوَ بِحَسَبِ قُوَّةِ الْإِيمَانِ وَضَعْفِهِ وَزِيَادَتِهِ وَنُقْصَانِهِ. Même s'il ne s'en rend pas bien compte, car son cœur est préoccupé par autre chose et détourné vers ce qu'il occupe. En effet, la présence d'une chose est différente du fait d'en avoir la conscience et de la ressentir. Et la force ou la faiblesse de cela, son augmentation ou sa diminution, dépendent de la force ou de la faiblesse de la foi, ainsi que de son augmentation ou de sa diminution. Fin de citation. Chaque croyant a dans le cœur le désir ardent de rencontrer Allah. Mais beaucoup ne le ressentent pas, ce désir, bien qu'il soit présent, et ce n'est pas contradictoire. Et pour que vous compreniez cela de la même manière, de la meilleure des manières, je vais vous l'imager. Vous allez vous imaginer quelqu'un qui a faim mais qui ne ressent pas cette faim parce que cette personne est occupée par quelque chose qui la distrait. Quelqu'un qui est fatigué et dont le corps a besoin de sommeil, mais qui ne ressent pas cette fatigue parce que cette personne est occupée ou préoccupée par quelque chose ou par quelqu'un à qui ou à quoi elle est attachée au point d'être distrait du besoin de son corps de se reposer ou de manger. Eh bien, dans cette vie d'ici-bas, il y a des gens qui ont en eux le manque vis-à-vis d'Allah sans pour autant le ressentir, car bien trop occupés par les péchés, bien trop occupés par le fait d'avoir attaché le cœur à des passions, à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le ressenti du manque vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens sont différents et variés dans leurs degrés qu'ils ont, proportionnellement à leur différence dans les degrés de foi et d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il en découle le fait qu'il soit également proportionné et varié dans le ressenti de cette chose présente dans le cœur, en fonction de leur foi. Et le manque vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala se divise en deux, et c'est là que vous allez parfaitement comprendre le lien avec notre sujet. Premièrement, le manque vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens du désir ardent de le rencontrer dans l'au-delà. On le retrouve dans l'invocation prononcée régulièrement par le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam qui disait « Wa as'aluka shawqa ila liqa'ik » et je t'implore, ô Allah, de m'accorder le désir ardent de te rencontrer. Deuxième catégorie de désir ardent, de manque vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'envie ardente, le désir, le manque d'être proche de lui par les bonnes actions auxquelles la personne s'empresse ou vers lesquelles la personne s'empresse. Le fait d'aller faire des bonnes actions par manque vis-à-vis d'Allah et d'éprouver un bonheur et une joie à le faire. On le retrouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interpellait Bilal radiyallahu ta'ala an qui avait pour habitude d'appeler à la prière. Il lui disait « Arihna biha ya Bilal »« Ô Bilal, appelle à la prière, repose-nous par cette prière, ô Bilal. » Également, on le retrouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ et on a mis la réjouissance de mes yeux dans la prière. Le prophète alayhi salatu wassalam avait le manque d'Allah dans le sens du manque d'adorer Allah. Il s'empressait dans la prière, il s'empressait dans l'obéissance d'Allah. Entre dans ce principe-là le ressenti que le croyant doit avoir et par lequel il doit se préparer pour son pèlerinage. Le manque de voir la Kaaba, le manque d'aller à Mecca, le manque d'aller accomplir le pèlerinage et de fouler la terre sacrée où est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il a vécu, où il a prêché, où il a propagé la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants ont des cœurs qui frémissent à l'idée du fait qu'ils sont sur le point de se rendre dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette terre bénie, qui pourtant n'est pas une terre verdoyante et n'est pas une terre qui fait pousser de la verdure. Mais il est fort possible que l'une des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lesquelles il a décidé que la Mecque ne soit pas une terre verdoyante, soit le fait que cela est plus à même de susciter dans le cœur du croyant la sincérité dans l'accomplissement du pèlerinage. Tu ne vas pas à la Mecque comme tu le ferais pour un voyage de tourisme, afin de contempler la beauté de la nature et de voir ses splendeurs. Non, tu vas chercher une autre beauté, une autre splendeur qui est intérieure. Et c'est ça qui t'attire et qui prouve que tu ne le fais que pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Le pèlerinage et la umrah ne sont pas des voyages de tourisme. J'aimerais que vous soyez concentrés sur ce point important. Moi qui vous parle, j'ai pu voir et constater un changement entre le pèlerinage, il y a de cela des années, et le pèlerinage dans cette époque que nous vivons, cette époque de mondialisation, cette époque où les informations se répandent à une vitesse sans pareille, cette époque de consommation, cette époque où les péchés se sont multipliés et variés, le pèlerinage n'est plus le même qu'avant. C'est-à-dire, la conception du pèlerinage n'est plus la même que celle que les gens d'avant avaient. Le pèlerinage, lui, reste comme il est. C'est un emblème d'Allah. Il ne perd en rien de sa valeur. Mais les cœurs ont changé. La conception du pèlerinage a changé. Prenez garde, il ne s'agit pas d'un voyage de tourisme. Il s'agit d'un voyage sacré où vous allez faire revivre votre foi, renouer votre lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a dans la Mecque, dans le pèlerinage, des ressentis que seul Allah connaît et seul le croyant qui les ressent peut connaître. Mais en réalité, ces ressentis sont des cadeaux qu'Allah offre. Il les offre à ceux qui se préparent. Il les offre à ceux qui sont sincères. Ceux qui se rendent là-bas avec des cœurs fortement attachés. Fortement attachés à la maison sacrée, à l'accomplissement du cinquième pilier de l'islam, Hajj Baytillah al-Haram, l'accomplissement du pèlerinage dans la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une question se pose. Comment se fait-il que les cœurs des croyants soient aussi fortement attachés à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala? Comment se fait-il que pour beaucoup, lorsqu'ils arrivent là-bas et ont le plaisir de contempler la Kaaba pour la première fois, ils fondent en larmes, comme ce fut le cas du prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il arriva devant la Kaaba, il commença le tawaf par la pierre noire qu'il embrassa et fondit en larmes. Alayhi salatu wa salam. Pourquoi cela? Premièrement, parce que Allah Azza wa Jal s'est annexé cette demeure et a dit que cette demeure est la sienne, c'est sa maison. Et comme le croyant aime Allah subhanahu wa ta'ala, il aime tout ce qui est à Allah Azza wa Jal. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Rawdatul Muhibbin, le jardin des aimants, a dit parmi les signes montrant l'amour d'Allah Azza wa Jal, il y a le fait d'aimer la parole, je vais vous la lire tout simplement, Mahabbatu dari al-mahbubi wa bayti. Parmi ces signes, il y a le fait d'aimer la demeure du bien-aimé. Le bien-aimé, c'est Allah et sa maison. Hatta mahabbati al-mawdi' alladhi halla bih. Jusqu'à aimer le lieu où se trouve cette maison, Mecca. وهذا هو السر الذي لأجله علقت القلوب علقت القلوب على محبة الكعبة البيت الحرام. Et c'est le secret même qui explique pourquoi les cœurs se sont attachés à l'amour de la Kaaba, la maison sacrée. حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان والأحباب ولذ لهم فيها السفر الذي هو قطعة من العذاب فَرَكِبُوا الْأَخْطَارِ وَجَابُوا الْمَفَاوِزِ وَالْقِفَارِ وَاحْتَمَلُوا فِي الْوُصُولِ غَايَةَ الْمَشَاقِ وَلَوْ أَمْكَنَهُمْ لَسَعَوْا إِلَيْهَا عَلَى الْجُفُونِ وَالْأَحْدَاقِ. Ceux qui aiment Allah ont trouvé très doux Dans leur quête pour y parvenir, le fait d'abandonner leur pays, leurs proches, parce que le voyage à la Mecque, c'est un sacrifice, et tu te sépares de ta famille, tu te sépares de tes proches. Ce sacrifice-là, tu le trouves d'où? Parce que tu le fais pour Allah. Le voyage vers la demeure sacrée leur est devenu plaisant, bien qu'il soit une part du tourment. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith « As-safaru qit'atun min al-adab » Le voyage est une part de tourment, dans le sens où le voyage est contraignant. Le voyage fait souffrir, le voyage est fatigant, est éprouvant. Et malgré cela, les gens accrochés à la Kaaba supportent les tourments du voyage, tellement ils sont aimants de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ibn al-Qayyim a dit « Ils ont affronté les dangers, traverser les déserts arides et les terres désolées, supporter les plus grandes difficultés pour y parvenir. Et s'ils l'avaient pu, ils s'y seraient rendus en marchant sur leurs paupières et leurs yeux. » Allahu Akbar. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous parle de son époque, une époque tout à fait différente de la nôtre, car les moyens de transport acheminant à la Mecque utilisés n'étaient pas du tout ceux que nous utilisons à notre époque. On ne connaissait pas l'avion, on ne parlait pas de tous ces conforts, on traversait les déserts. Pour certains, ils traversaient des déserts, ils devaient voyager bien en avance pour être sûr d'arriver. Pendant des mois, ils traversaient le désert, ils s'arrêtaient et ils devaient faire du commerce, acheter et vendre pour gagner un peu de quoi dépenser pour arriver à bon port. Et pour certains, ils arrivaient en retard. Ils arrivaient après Arafat, après le jour de Arafat. Et le prophète alayhi salatu wa salam a dit « Al-Hajj Arafat », le pèlerinage, c'est Arafat. Si tu rates Arafat, ton pèlerinage est raté. Je vous laisse un peu vous imaginer le ressenti de ces gens qui traversaient les déserts pendant des mois et qui supportaient les peines et les contraintes, les lourdeurs et les craintes à l'idée de se faire dépouillé par les brigands de la route. Et après avoir supporté tout ça, ils arrivaient pour certains en retard. Ils devaient rester à la Mecque, vivre là-bas pendant toute une année pour attendre le pèlerinage de l'année suivante pour accomplir le pèlerinage. Bien évidemment, sans pour autant pouvoir communiquer avec les membres de leur famille, sans pouvoir leur dire qu'ils allaient bien, qu'ils étaient encore vivants. Les membres de leur famille attendaient impatiemment, pleins d'inquiétude, une année et plus encore pour les voir revenir sains et saufs. Ô combien nous sommes ingrats! J'ai une connaissance personnelle, en Afrique, particulièrement au Togo, qui me raconte la chose dont je vais vous faire part, afin de réveiller en nous ce désir de la Kaaba, du pèlerinage, mais aussi la reconnaissance que l'on se doit d'exprimer à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir tellement comblés de ses bienfaits et de ses facilités. Ce frère me raconte qu'autrefois au Togo, dans les villages, les musulmans qui voulaient se rendre au pèlerinage se consultaient et se réunissaient. Ils entreprenaient un très long voyage. Et lorsqu'ils pouvaient arriver à la Mecque, quand ils arrivaient, ils accomplissaient le pèlerinage. Et au retour, il arrivait souvent qu'ils se perdaient dans des pays en Afrique, pas de boussole, pas de GPS, pas d'internet, pas de WhatsApp, pas de Facebook, rien de tout cela. Ils se perdaient dans des villages en Afrique et des fois ils ne savaient même plus retourner chez eux. Et un jour, lorsqu'un groupe s'est constitué pour aller se rendre à la Mecque pour l'accomplissement du pèlerinage, il y avait avec eux un homme non musulman à l'époque, aveugle. Cet homme-là a été attiré et leur a fait part de leur souhait de vouloir venir avec eux. Il a même embrassé l'islam et il s'est joint à eux, aux musulmans, qui se sont rendus à la Mecque. Ils sont allés accomplir le pèlerinage. Dans un long voyage pénible et contraignant. Après avoir terminé le pèlerinage, ils sont revenus Et en route, certains se sont perdus. Et cet homme aveugle s'est retrouvé dans un endroit, dans un autre pays que son pays d'origine, le Togo, où il s'est perdu, subhanallah. Et les autres, ne l'ayant pas retrouvé, ont dû le laisser et retourner sans lui au Togo. Arrivé là-bas, tout le monde pensait qu'il était mort. Pendant des années, de très longues années, les gens n'avaient plus aucune nouvelle de lui, subhanallah. Et lorsque un jour, des commerçants togolais sont allés dans le pays frontalier, le Bénin, pour commercer, ils ont vu un homme aveugle dans un des villages qui parlait leur dialecte, leur langue. Ils sont allés le voir plein d'étonnement et lui ont dit « Mais d'où viens-tu, toi ? Tu parles la même langue que nous. » Et il s'est mis à leur raconter son récit. Alors, il a décrit son village et les gens de son village. Les commerçants sont retournés au Togo et sont allés dans son village pour informer les habitants de la personne qu'ils venaient de voir. Pris par l'étonnement, certains ont aussitôt voyagé jusqu'au Bénin à la rencontre de cet homme. Ils lui ont posé plein de questions. C'était bel et bien lui, ils l'ont reconnu. Ils l'ont pris avec eux. Ils sont retournés dans leur village au Togo, qui était un village de non-musulmans. Et lorsqu'ils ont vu cet homme revenir après toutes ces années sains et saufs, savez-vous ce qu'il s'est passé? Ils ont dit, le seigneur de cette religion ne peut qu'être vrai, et sa religion ne peut qu'être la vraie religion. Ils ont tous embrassé l'islam. Et c'est la cause pour laquelle notre ami qui nous raconte cela est musulman, puisqu'il y avait dans ce village un de ses grands-parents qui a embrassé l'islam, et donc après sa descendance, parmi lesquels lui-même était donc musulman. Pourquoi je vous raconte ça? Regardez, méditez ces gens-là, ce qu'ils étaient prêts à faire pour aller voir la Kaaba de leurs yeux. Il n'y avait pas d'appareil photo, il n'y avait pas de radio, pas de téléphone, il n'y avait qu'une chose, le sacrifice. Mais pour eux, c'était tellement important qu'ils étaient prêts à braver les dangers et à les supporter. Subhanallah, qu'est-ce qui fait ce sentiment si ce n'est la sincérité et l'amour que le pèlerin se doit de ressentir avant d'aller à la Mecque? Et j'insiste sur ça parce que je m'attriste beaucoup lorsque je constate très souvent au pèlerinage des gens très distraits qui ne font qu'utiliser leur téléphone pour prendre des photos ou pour appeler les membres de leur famille en plein devant la Kaaba. Subhanallah, en plein devant la Kaaba, la maison sacrée d'Allah, au lieu d'en profiter pleinement, qu'est-ce que ces gens-là font? Eh bien, ils sont distraits. Et subhanallah, Ali ibn al-Fudayl raconte un des salafs qu'un jour, il entra au haram. Le haram, c'est la maison sacrée où il y a la Kaaba, la mosquée sacrée, pour accomplir le tawaf. Et il vit Sufyan al-Thawri, rahimallah. Sufyan al-Thawri est un illustre imam de l'islam, un des pieux prédécesseurs. Ali ibn al-Fudayl entre à la Kaaba pour tourner autour et faire le tawaf. Et il remarque la présence de Sufyan al-Thawri qui était en sujoud devant la Kaaba. Il était prosterné devant la Kaaba. Ali ibn al-Fudayl se met alors à commencer son tawaf. Premier tour. Il termine le premier tour, il voit encore Sufyan prosterné. Deuxième tour. Il retrouve Sofiane dans la même position. Troisième tour, quatrième, cinquième, sixième, septième. Il a fait tout le tawaf sans voir Sofiane Thaouri se lever d'une seule prosternation. Voilà comment étaient ces gens-là devant la Kaaba. Ils n'étaient pas distraits. Ne le soyez donc pas, ô vous qui avez été privilégiés, ô vous qui allez vous rendre à la Mecque. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas insouciants de ce grand bienfait qu'Allah vous a offert, subhanahu wa ta'ala. Et il y a plein d'autres choses, mais on ne va pas s'étaler sur cela. Deuxième point que l'on pourrait citer dans les sagesses pour lesquels les cœurs des croyants sont fortement attachés à la Kaaba, à la Mecque, c'est le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala en est fait un lieu de convergence pour les gens. En effet, dans le Coran, Allah Azza wa Jalla a dit « وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ » dans le sens rapproché du verset. Et lorsque nous fîmes de la maison un lieu de convergence pour les gens. Allah nous informe dans ce verset qu'il a fait de la Kaaba, subhanallah, un lieu de convergence, un lieu de retour fréquent, où les gens ne cessent de revenir, et encore, et encore, et encore. Allah a fait que les cœurs s'attachent à la Kaaba, comme vous allez le voir dans le point suivant, Inch'Allah ta'ala. Au point où, lorsque, subhanallah, les gens quittent la Mecque, à condition qu'ils y aient accompli le pèlerinage véritable, celui du cœur, celui où ils ont senti leur âme se nourrir, eh bien, ils éprouvent un désir ardent de revenir. Je pourrais très bien vous raconter quelques expériences ou quelques scènes que j'ai pu voir de gens qui, la dernière heure approche, lorsque nous sommes dans la fin du pèlerinage et que nous devons quitter les lieux de Mina, tu vois les gens fondre en larmes. Subhanallah, on dirait qu'ils ont perdu un enfant. Wallahi, sans exagération. Je ne te parle même pas des adieux lorsque les pèlerins rentrent dans leur pays et que chacun va repartir dans ses occupations. Ils se disent au revoir avec les yeux pleins de larmes. Je ne te parle même pas encore du ressenti de tous ceux qui t'appellent après pour te dire « je n'arrive plus à sortir de chez moi ». Pendant une semaine, deux semaines, ils ne veulent plus retourner au travail, ils ne veulent plus retourner vaquer à leurs occupations, tellement le cœur est attaché à la Mecque, tellement le cœur est attaché à ces moments forts. Car c'est ça que vous devez vivre à la Mecque, des moments forts, pas des moments de réseaux sociaux, pas des moments de distraction. Faites une pause avec vos téléphones à la Mecque. Rangez ces téléphones et ne prenez pas en photo vos adorations comme les gens le font à outrance. Ils veulent se montrer. Il n'a même pas fini d'invoquer Allah que la photo est déjà arrivée chez lui dans son pays. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il est en train de faire et dans quelle situation il est. Quelle grande erreur, quel danger pour ta foi, quel danger pour la valeur de ton adoration. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah éveille nos consciences. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ » c'est-à-dire un lieu de convergence pour les gens, un lieu qui manque aux gens et que les gens veulent retourner visiter sans jamais être rassasiés. Troisième sagesse, pour laquelle les cœurs des croyants sont fortement attachés à la Kaaba, ce n'est autre que l'invocation formulée par le prophète Ibrahim, alayhi salam, lorsque il a laissé son épouse Hajar, son fils en bas âge, Ismaïl, alayhi salam, et que, subhanallah, pour répondre à l'ordre d'Allah, il a dû quitter les lieux et se rendre en direction du Sham, vers la Syrie, le Liban, la Palestine, Jordanie, vers ce côté-là. Lorsqu'il est parti, Ibrahim s'est mis à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens du verset, « J'ai laissé une partie des miens dans une terre non verdoyante. » Plus tard, il va dire « فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ » Fais qu'une partie des cœurs des gens se tourne vers eux. Donc, Allah Azza wa Jal a entendu l'invocation du prophète Ibrahim alayhi salam qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de diriger une partie des cœurs des gens vers eux, vers la Kaaba, vers Mecca, vers l'envie du pèlerinage et ainsi de suite. L'imam al-Baghawi, rahimahullah, rapporte dans son tafsir que l'imam Mujahid, un des pieux prédécesseurs, a dit « لو قال أفئدة الناس » Si le prophète Ibrahim a.s. dans son invocation avait dit « Oh Allah, fais que les cœurs des gens, et pas une partie des cœurs des gens, fais que les cœurs des gens se dirigent vers eux, لَزَاحَمَتْكُمْ فَارِسْ وَالرُّومْ وَالتُرْكُ وَالْهِنْدْ » Toutes les autres communautés, les communautés de Faris, Rome, Turc, Al-Hind, ce sont des communautés, des grandes nations qui ne sont pas musulmanes. Allah aurait répondu à l'appel d'Ibrahim et aurait fait que ces gens-là également aillent à la Mecque. Mais Ibrahim a dit, fais qu'une partie des cœurs des gens, c'est-à-dire les musulmans parmi les gens. Et c'est la raison pour laquelle vous les musulmans, vous êtes attirés par la Kaaba, parce que c'est Ibrahim qui l'a demandé à Allah, subhanahu wa ta'ala. Saïd ibn Jubayr, un des pieux prédécesseurs, a dit, « La hajjati al-yahoud wal-nasara wal-majus » Si Ibrahim alayhi salam avait dit, « Oh Allah, fais que les cœurs des gens se dirigent vers eux, les juifs, les chrétiens, les masdéens auraient été accomplir le pèlerinage à la Mecque. » ولكنه قال أفئدة من الناس. Mais plutôt Ibrahim a dit, fais qu'une partie du cœur des gens, et ce sont les musulmans. Ce ressenti, il est dans le cœur du croyant. Le manque de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, le manque d'aller à Mecca, et il a plusieurs intérêts. En d'autres termes, on pourrait se dire, le fait de ressentir le manque de la Mecque, de la Kaaba, du pèlerinage, qu'est-ce que cela pourrait nous apporter? La réponse, plusieurs choses. Premièrement, le fait que les pèlerins relativisent face aux contraintes qu'ils doivent supporter pendant le pèlerinage. Je vous répète que ce n'est pas un voyage de tourisme. Il fait chaud. Il fait très chaud. On a vu des pèlerins, wallah, je vous raconte quelque chose de l'année dernière. Un papa qui était avec nous dans notre groupe et qui avait plus de 80 ans, d'origine africaine, je ne me souviens plus de son pays. Je pense que c'est le Sénégal, mais je ne me souviens plus. Il était très gentil, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et ses enfants l'ont envoyé pour le pèlerinage. Je me souviens comme si c'était hier, il était avec nous dans la tente. Il y avait certains rites qu'il ne pouvait pas faire physiquement et d'autres l'ont fait à sa place, comme c'est permis de déléguer certains rites du pèlerinage, tels que la lapidation ou le jet de pierre sur les stèles. Il était très souriant, très content, mais il faisait chaud. Il ne pouvait pas trop se déplacer. On a à peine terminé le pèlerinage. On est retourné dans nos chambres d'hôtel. Qu'est-ce que j'entends? J'entends qu'on le retrouve couché au sol et qu'il est décédé. Rahimahullahu ta'ala. Qu'Allah l'élève en degré et lui accepte. Et quelle belle fin qu'Allah lui a donnée. Juste après avoir terminé son pèlerinage. Regardez comment Allah l'a repris. Pour vous dire qu'il y a des contraintes. On a vu des diabétiques souffrir pendant le pèlerinage. On a vu une vieille femme qui est tombé dans le coma et qui a dû rester 3 semaines dans l'hôpital. Et on a vu plein de choses, des gens qui ont fait des malaises. Pour vous dire que ce n'est pas du tourisme, c'est difficile, c'est contraignant. Mais ce n'est pas grave, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien évidemment, il faut partir avec des gens qui sont organisés, qui ont de l'expérience, qui savent faire. Mais ça c'est un autre sujet, ce n'est pas le but de mon intervention. Les contraintes, face à la récompense recherchée, au résultat espéré, ce n'est pas grave, parce que c'est pour Allah. Alors quand vous allez rencontrer des contraintes, ne vous plaignez pas, car elles contribuent à l'augmentation de vos récompenses. Mais si vous vous plaignez, alors il y a risque de diminuer vos récompenses, ne soyez pas dupés. Je vais être franc avec vous. Le voyageur français est un voyageur qui se plaint souvent, qui se plaint beaucoup. Il fait trop chaud, trop froid, j'ai faim, j'ai trop mangé, je suis fatigué, j'ai trop dormi. Il se plaint pour tout et son contraire. Je vous conseille, mes frères et sœurs, et je n'ai pas d'exemple, je n'ai pas de leçon à vous donner, mais j'ai vu des choses là-bas. Je vous conseille de vous concentrer sur votre âme. Faites attention à votre langue, à ce que votre langue va dire. Faites attention à ne pas ternir votre adoration, à ne pas souiller votre belle action qu'est le pèlerinage par des propos qui ne vous avanceront à rien et qui ne vous serviront à rien et qui peut-être enlèveront de votre cœur le manque, ce sentiment dont nous sommes en train de parler, qui justement est là pour t'aider à supporter les contraintes et les difficultés. Deuxième chose que l'on pourra citer, c'est que le manque vis-à-vis du pèlerinage fait partie des causes qui aident la personne à ressentir la quiétude pendant son pèlerinage. Ça t'a manqué? Tu t'es fatigué? Tu t'es organisé, surtout avec ce système nouveau de Nousouk, les inscriptions pour les pèlerins français sur la plateforme Nousouk, plein de stress. Je ne sais pas si ça va aboutir. Je ne sais pas si ma réservation est confirmée. Jusqu'à la dernière seconde, tu es stressé. Mais tout ça, tu le fais parce que la Mecque te manque, parce que la Kaaba te manque. Et on connaît des gens, on les a vus de nos yeux pleurer lorsque leur réservation a été confirmée. Ils se sont inondés de larmes. Certains ont pleuré toute la journée, subhanallah. Tout ça, ça va t'aider, inshallah ta'ala, lorsque tu vas arriver sur place, à ressentir la quiétude. J'ai fait des efforts, j'ai fait des sacrifices, me voici ici à la Mecque, je suis arrivé, je suis à Arafat, je vais enfin pouvoir lever toutes mes demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, et je suis venu jusqu'ici avec mon cœur avant d'être venu avec mon corps. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, cet illustre savant a dit: sache que ce qui fait bouger les cœurs et qui les fait avancer vers Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est trois choses. Al-mahabba, wal-khawfu, wal-raja. L'amour, la crainte et l'espoir. Qu'est-ce qui te pousse à œuvrer dans la voie d'Allah, à adorer Allah? C'est l'amour que tu ressens pour Allah, la crainte que tu as envers lui, et l'espoir en sa miséricorde. C'est ces trois choses-là qui te poussent à avancer vers Allah Azza wa Jal. Il dit wa aqwaha al-mahabba. Et la plus forte de ces trois choses-là, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est quelque chose qui est voulu en soi-même, contrairement à la crainte et l'espoir. Lorsque je crains Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour que Il me pardonne, il me fasse entrer au paradis. Lorsque j'espère en Allah, c'est pour qu'il m'accepte et me fasse entrer au paradis. Mais une fois entré au paradis, il n'y a plus ces notions-là. Il n'y a plus de crainte d'Allah au paradis. Mais l'amour, lui, c'est quelque chose qui t'accompagnera tout le temps, même quand tu entreras au paradis. C'est la base, c'est le pivot, c'est l'essence même de l'islam. L'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus grande de toutes les adorations. Et si tu médites bien, toutes les actions, toutes les paroles, toute ta religion est basée sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah, c'est immense. Subhanallah, qu'Allah nous l'accorde. Et ce n'est pas que des prétentions. Ça se traduit par des actes concrets, par des paroles explicites, qui prouve combien le serviteur aime son Seigneur, Allah, subhanahu wa ta'ala. L'amour d'Allah t'accompagne tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Et ne disparaît pas dans l'au-delà. Et les gens, dans l'amour, l'espoir et la crainte, sont encore une fois différents et variés dans les degrés qu'ils ont atteints. Et en fonction de ces ressentis-là, de l'amour, de la crainte, de l'espoir, ces gens-là vont œuvrer et vont augmenter les actions et l'envie d'aller au Hajj, l'envie de voir la Kaaba, l'envie de profiter comme il se doit de cette noble adoration qu'Allah nous l'accorde et l'accorde à chaque musulman sincère, où qu'il soit dans la terre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala al-musta'an. Et en fonction de cela, la récompense augmente. Et ainsi, nous avons terminé le sujet de ce ressenti qui est le manque de la Kaaba, le manque du pèlerinage. Nous passons à un point suivant sur lequel nous allons nous arrêter, incha'Allah ta'ala. On va entrer vraiment dans les sagesses, les secrets des différentes actions du pèlerinage. Premièrement, ce qu'on appelle al-mawaqit. Al-mawaqit, qui est le pluriel de al-miqat. Al-miqat, c'est le point de départ géographique. C'est un endroit, un lieu déterminé dans lequel le pèlerin doit se rendre en fonction du côté ou du pays d'où il vient. Il y a 5 endroits qui sont autour de la Mecque, qui ont été fixés, 4 par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 1 par le compagnon Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Ils ont été fixés et ils sont autour de la Mecque en fonction de l'endroit duquel tu arrives. Personne ne peut passer le miqat s'il souhaite accomplir la umra sans aller à cet endroit et se mettre dans un état qu'on appelle l'état de sacralisation. Ici, je ne suis pas à expliquer les rites du pèlerinage. Ça, inshallah ta'ala, je le ferai dans d'autres assises. Là, on regarde, on étudie le côté spirituel, le côté foi, le côté cœur, le côté âme. Lorsque tu passes par ces miqat, des choses doivent venir à ton esprit. Parmi ces choses-là, le fait que la Mecque soit entourée par les 5 points géographiques de départ de Umrah, les miqat, les mawaqit, c'est comme si on voulait te dire que la Kaaba est un bijou gardé, un bijou protégé, qui a des limites. Celui qui veut aller vers ce bijou-là doit s'arrêter dans les limites et respecter des bienséances, des politesses, des règles de conduite, et ne doit pas franchir ces limites n'importe comment, comme bon lui semble. Non, mais plutôt, il doit faire attention à respecter des choses. Et cette chose-là, c'est d'entrer en état d'ihram, en état de sacralisation. Et il y a 5 miqat qui entourent la Mecque. Les 4 premiers sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhumah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ou Abdullah a dit, « Waqqata li ahli al-Madinata » ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. عبد الله بن عباس ندي للبروفيت صلى الله عليه وسلم أفيكسي ل point géographique de départ, les mawaqit, pour les habitants de Médine, c'est Dhul Hulayfa. Pour les habitants de la région du Sham, ceux qui arrivent de la région de la Syrie, ils doivent passer par un endroit appelé Al-Juhfa. Pour les habitants du Najd, la région où se trouve la ville de Riyad, la capitale de l'Arabie, ils doivent passer par l'endroit appelé Qarnul Manazil. Pour les habitants du Yémen, ils doivent passer par l'endroit appelé Yalamlam. Ibn Abbas a dit, ces lieux sont des miqats pour eux, ainsi que pour toute personne venant de ces directions et souhaitant accomplir le Hajj ou la Umrah. Quant à celui qui habite à l'intérieur de ses limites, il entre en état d'ihram à partir de l'endroit d'où il part. Même les habitants de la Mecque, ils font leur ihram à partir de la Mecque, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et le cinquième miqat, il a été fixé par Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Lorsque ces deux villes de Al-Kufa et Al-Basra furent conquises ou ouvertes, leurs habitants vinrent voir Omar radiyallahu anhu et dire « Ô commandeur des croyants, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fixé « Qarn al-manazil comme miqat pour les gens du Najd, mais cela est décalé par rapport à notre route. Et si nous voulons passer par Qarn, cela nous cause de la difficulté. » Omar leur dit alors, regardez un endroit à la même latitude sur votre route. Il leur fixa alors Dhat ou Irq, ce qui amène à 5 le nombre de miqat. Les sagesses du miqat. Il y a dedans des secrets. Première chose que l'on pourra citer, le fait de s'arrêter au miqat, qu'est-ce qu'on fait à cet endroit-là? En principe, on fait le bain, Al-Rusl, le même bain que le bain du vendredi, de la prière du Eid. On porte le vêtement d'Ihram, on se nettoie, on se coupe les ongles, on met du parfum pour les hommes sur la tête et la barbe, pas sur les vêtements. On se prépare, on prononce la talbiya, la formule à répéter, on fait du zikr. Tout ça sert à nous préparer encore et encore à l'accomplissement du pèlerinage. Comme si tu te prépares dès maintenant, chaque jour tu te prépares jusqu'à ton voyage, puis quand tu arrives au miqat, tu renouvelles ta préparation encore une fois. Tu te fais beau. Si tu avais rendez-vous avec quelqu'un d'important, si tu avais un rendez-vous pour, je sais pas, pour trouver un grand travail, pour résoudre un grand problème, tu porterais les meilleurs vêtements, ce qui serait logique. Tu n'es pas à être blâmé dans ça. Mais à plus forte raison, le rendez-vous avec Allah dans la Kaaba, tu te dévêtis pour les hommes, tu portes le vêtement d'Ihram, tu fais ta toilette, tout ça pour te préparer, et pas seulement préparer l'extérieur, mais préparer l'intérieur aussi. Parce que ce qui te pousse à préparer cet extérieur, c'est l'envie que tu ressens dans ton intérieur. Deuxièmement, comme on a dit, le fait de faire renaître, le fait d'augmenter la motivation. Donc la première, c'était de préparer le cœur. Deuxièmement, c'est le fait de faire renouveler, de faire renaître la motivation, l'envie d'aller et d'arriver à Mecca. Passer par le miqat est comme pour toi un signe, comme si tu te disais « Subhanallah, je suis maintenant proche, je vais vraiment commencer, j'arrive vraiment à proximité de la maison d'Allah, elle n'est plus loin, elle n'est plus loin. » Et là tu réfléchis à toutes ces années où tu as négligé, si tu as négligé bien sûr. Beaucoup ont négligé, ont retardé le pèlerinage. Ou alors tu réfléchis à toutes ces années où tu étais dans l'incapacité d'aller au pèlerinage. À toutes ces années, je connais des gens qui ont postulé année après année. Certains ont même perdu de l'argent, subhanallah. Ils n'ont pas pu aller. Jusqu'à cette année, Allah a validé leur inscription. Ça y est, j'arrive, je suis proche. C'est ça que tu dois faire bouger dans ton cœur. Troisièmement, la vénération de la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Plus tu te rapproches, plus tu vénères la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ne m'interroge pas sur la situation des gens lorsqu'ils arrivent à la Kaaba. Je ne parle pas des gens distraits. Je parle des gens comme vous qui se sont préparés. Je parle des gens qui donnent de leur temps pour savoir quelle est la situation dans laquelle ils doivent être quand ils arrivent devant la Kaaba. J'ai vu de mes yeux des centaines de larmes couler, des personnes âgées. On arrive un jour à la Kaaba, je me souviens comme si c'était hier, août 2023. On arrive avec un groupe devant la Kaaba et il y a un homme avec nous qui dépasse les 75 ans, avec toute sa famille, tous ses enfants, Allahumma barik, une famille d'Africains. Qu'Allah les préserve. Wallah, les Africains, quand ils sont motivés pour le pèlerinage, ils ont vraiment de l'engouement et de l'amour pour ça. Je l'ai vu de mes yeux. Et subhanallah, ce papa-là, je lui ai dit, il est mieux pour toi que tu te reposes et que nous, on aille accomplir la Umrah, puis le lendemain, quand tu es bien reposé, on te reprend et on t'accompagne pour te faire ta Umrah. Il a dit, non, c'est bon. Non, j'ai pas besoin de me reposer. Je suis bien. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait ça? C'est exactement le sujet que nous traitons. C'est l'engouement, c'est le manque de la Mecque. Tous les gens, à chaque fois à qui on dit reposez-vous, ils nous disent non. Presque aucun accepte de se reposer. Même les personnes âgées, des fois, même les personnes malades. Allahu Akbar. L'essentiel. On va jusqu'à la Kaaba avec le papa. Je dis à ses enfants, occupez-vous quand même bien de lui, tenez-le, etc. Et on a dû marcher très doucement pour faire le tawaf. Parce que le papa ne pouvait pas marcher vite. En réalité, à la fin, ce papa a été une grande cause de notre baraka dans cette umrah-là. Parce que le fait de marcher doucement pour le garder nous a fait prendre notre temps et a permis à tous les gens qui étaient avec nous d'invoquer Allah. Et les gens étaient là en larmes devant la Kaaba. Et on a vu des gens avec des larmes couler, des gens heureux. Subhanallah. Je termine par une parole de l'imam An-Nawawi, rahimahullahu ta'ala, qui a dit, « Yustahabbu idha wasal al-haram an yastahdira fi qalbihi ma amkanahu min al-khushu'i wal-khudu'i bi-zahirihi wa batinihi wa yatadhakkara jalalat al-haram wa maziyatahu ala ghayrih. » Il est recommandé, lorsqu'on entre dans le territoire sacré, Al-Haram, de rassembler dans son cœur autant que possible de recueillement et d'humilité, tant extérieurement qu'intérieurement, et de se rappeler la grandeur du Haram et son mérite par rapport aux autres lieux. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et je vous donne rendez-vous demain à 19h. Si Allah nous prête vie et nous l'accorde, Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.